J'ai réfléchi totalement à ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Courvoisier au Cachangage. Je pense que, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier numéro de Paroles aux auditeurs de cette semaine. Dans votre espace d'échange et de partage, nous nous penchons sur ce vendredi 23 juillet 2010 sur le travail de la presse en République démocratique du Congo. Hier jeudi 22 juillet, la presse congolaise a célébré la journée nationale de la presse sous le thème « L'apport de la presse dans le développement de la RDC pour les 50 ans à venir ». L'histoire de la République démocratique du Congo est elle-même intimement liée à celle de la presse. Que ce soit l'audiovisuel, la presse écrite et aujourd'hui la presse en ligne, et son travail vous touche à chaque instant de votre vie. Car c'est à travers elle que vous êtes informé de tout ce qui se passe dans votre communauté, ainsi de suite jusqu'à la situation générale du pays. La célébration de cette journée intervient dans un moment particulier avec la commémoration du 50e de la RDC. Deux questions pour l'émission d'aujourd'hui. Comment appréciez-vous le travail de la presse 50 ans après? Et quel rôle doit jouer la presse dans le développement de la RDC pour les 50 prochaines années? Parole aux auditeurs, on va avoir au téléphone Madame Chantal Kanimbo, présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et les temps qu'elle puisse nous rejoindre au studio. L'émission de ce jour est réalisée par Tissou Boutou, assistée de Delia Mapinga, Nicole Ngaka assure la coordination et Jean-Claude Michala est à la mise en onde, Pierrot est la mise à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet ca@radiookapi.net.
La presse en République démocratique du Congo a célébré hier, jeudi 22 juillet, sa journée nationale, au cours de laquelle un regard a été jeté sur l'apport de la presse dans le développement de la RDC pour les 50 ans à venir. Parole aux auditeurs vous donne la possibilité de vous exprimer sur le travail de la presse dans votre milieu, dans votre province, dans votre territoire, dans votre cité, dans votre localité. Que ce soit le travail produit par les médias audiovisuels, nous parlons de la télévision, de la radio, que ce soit ce que vous lisez dans les journaux et même ce qui apparaît sur Internet, qui est publié par les Congolais, que vous allez aussi lire. Vous allez donner votre point de vue sur ces travaux, et ces travaux se font pendant 50 ans, depuis l'accession de la RDC à l'indépendance et jusqu'en ce moment. Et nous allons ensemble avec vous jeter un coup d'œil à l'avenir pour savoir le rôle que la presse doit jouer dans le développement de la RDC pour les 50 prochaines années. Si vous désirez intervenir, vous pouvez nous appeler au 081-890-6315. 081-890-6315. Et pour les auditeurs qui nous écoutent en ligne, parce que la presse, les médias, c'est aussi sur Internet, comme la Radio Capi que vous suivez sur www.radiocapi.net, vous pouvez également nous envoyer votre réaction, votre point de vue, votre proposition par mail à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
La réalisation me fait signe que notre invitée est en ligne. Madame Chantal Kanimbo, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Le temps que nous puissions vous attendre au studio, nous commençons cette émission au téléphone. Les auditeurs seront aussi en ligne pour analyser ensemble ce que la presse a fait pendant 50 ans et aussi jeter un regard à l'avenir pour savoir ce qu'il faut faire pour le reste de 50 ans. Mais avant d'aller à ce qui touche au travail de la presse, revenons d'abord sur la journée nationale de la presse qui a été célébrée hier. Pour aider les auditeurs à comprendre cette journée, pourquoi la journée de la presse et dans quelles circonstances a-t-elle été créée? Question de faciliter aux auditeurs de comprendre pourquoi elle a été célébrée hier.
D'accord. Écoutez, la journée nationale de la presse a été instituée il y a 30 ans, au lendemain du congrès qui avait mis en place la structure professionnelle pour organiser la profession des journalistes, C'était en 1980, après le congrès qui a mis en place la structure formelle de l'Union nationale de la presse du Congo, le cadre fédérateur, c'est-à-dire la fédération de toutes les organisations professionnelles, parce que, comme on dit, l'Union fait la force, de manière à ce que toutes ces organisations se mettent ensemble pour défendre les intérêts de la profession. C'est à cette époque-là que cette journée a été instituée.
Et voilà, pour revenir maintenant au travail de la presse, 50 ans, hier vous en avez parlé bien sûr, mais en jetant un regard à l'avenir. Vous, en tant que présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, en bref, quel regard avez-vous sur le travail abattu par la presse, son parcours depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après?
Bon, écoutez, la presse congolaise a évolué selon l'évolution de l'histoire du pays, avec les différentes turbulences que le pays, les différents moments d'attente que le pays a connus. Bon, en bref, je peux vous dire que, bon, à partir de 1960, on a eu une presse qui est issue de la presse coloniale, parce que pendant la presse coloniale, il y avait la presse qui existait, il y avait la presse qui était, on peut qualifier une presse missionnaire, qui était essentiellement éditée par les missions pour des raisons d'éducation destinées aux populations alphabétisées. Il y avait la presse coloniale qui était destinée essentiellement aux Blancs. Et puis, à l'accession de le pays à l'indépendance, cette presse a évolué aussi. Il y en a qui étaient jusqu'alors contrôlés par les Blancs. Cette presse a été transférée entre les mains des Congolais. De 1960, on a assisté à la floraison de la presse qui était à l'image de l'engouement même des populations congolaises par rapport à l'indépendance que nous avons gagnée. Et il y a eu beaucoup de journaux qui ont pris place les forces médiatiques congolaises et qui étaient essentiellement identifiés aux partis politiques. Et donc, pendant cette période de notre pays, 1960-1965, il y a eu la presse qui était vraiment très politisée. Ensuite, bon, nous avons la deuxième période, c'est la période totalitariste, du parti État, où la presse qui a existé pendant la période coloniale et la période après indépendance a été nationalisée. Il y a eu des fusions. Beaucoup de titres qui existaient ont fusionné pour devenir un groupe. Et nous avons évolué dans le contexte monolithique que vous connaissez. Mm-hmm. Ensuite, à partir de 1990, bon, c'est la parole retrouvée, c'est le processus de démocratisation, c'est encore une nouvelle prospérité pour la presse, une prospérité hein, par rapport au nombre de presse voilà. qui sont nées. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'autre période, qui est une période où le conflit de la légitimité qui existait dans le contexte congolais n'existe plus, puisqu'il y a eu des élections qui ont été organisées. Et je pense que la presse congolaise a apporté beaucoup dans la construction de l'âme citoyenne congolaise et dans la construction, dans l'intériorisation des valeurs républicaines qui ont permis aux Congolais, pendant cette dernière transition, dans les élections, d'intérioriser un certain nombre de valeurs pour pouvoir participer aux élections. Qui était la première, hein, en tout cas, la première élection multipartiste depuis 1965.
Voilà, il y a les auditeurs aussi que nous allons avoir en ligne, comme Steve qui nous appelle des bénis, mais avant de prendre Serge, je voudrais vous poser une deuxième question, disons une troisième question, c'est par rapport à la période après, à partir de 1990, vous avez parlé de pluralisme en termes de nombre d'organes de presse, mais est-ce qu'on peut parler de ce pluralisme en termes de nombre, est-ce que le contenu aussi a été pluriel, parce que si on peut parler de pluralisme médiatique, d'aucuns pensent que le nombre d'organes, les organes de presse ont augmenté, mais est-ce que aussi le traitement de l'information est devenu aussi pluriel dans le sens qu'il diffère de la période avant 1990?
Bon, en 1990, c'est vrai, il y a eu expression turienne, hein, dans le sens que nous avions connu ce qu'on a appelé la presse rouge et la presse verte. Mm-hmm. La presse rouge qui était identifiée aux journaux qui défendaient les changements qui étaient souhaités par la majorité des Congolais et qui était identifiée comme la presse de l'opposition, et la presse verte qui était identifiée comme celle qui défendait le statu quo et qui était identifiée à la majorité présidentielle. Et donc, rien que, à mon avis, à mon humble avis, rien que par rapport à cette catégorisation, on peut effectivement dire que la presse était plurielle parce qu'elle permettait l'expression des deux opinions qui s'affrontaient en ce moment-là pendant la première transition de notre pays. Bon, c'est vrai que le nombre d'organes de presse ne signifie pas nécessairement le nombre d'expressions, de différences d'opinions, parce que il y a un autre problème qui se pose, mais qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui date depuis 1960, qui fait que beaucoup de journées qui existent sont en fait l'inspiration des personnalités politiques, et donc en ce moment-là, bon, c'est peut-être l'expression de ces partis politiques qui est exprimée, et moi je pense, bon, on pourrait dire que c'est une expression plurielle, mais ça pose d'autre part le problème de l'indépendance du journalisme, et donc ça c'est un problème qui existe depuis 1960 jusqu'à présent, et il va falloir que nous travaillions à réglementer cela, même si on ne peut pas interdire à un individu de créer un journal, mais il va falloir réglementer de cela de manière à préserver justement l'indépendance et la rédaction, l'indépendance des journalistes pour assurer une pluralité d'opinion, une information qui soit objective et qui permette aux citoyens de participer effectivement à la démocratie et de défendre les valeurs démocratiques et républicaines.
Voilà, merci, on vous garde en ligne parce qu'il y a aussi Steve qui est à Béni, il y a Maurice, journaliste RTNC Kananga. Nous allons aussi lui donner la parole tout de suite après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Steve, vous êtes en Béni, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons du travail de la presse dans votre milieu. Est-ce que vous avez des journaux qui apparaissent sur place à Béni ou soit des radios et des chaînes de télévision?
Oui, là, nous avons aussi des journaux. Nous avons des coulisses qui apparaissent souvent et d'autres miroirs. Nous avons aussi des journaux quand même.
Steve, si nous voulons parler en termes de bilan, comment vous appréciez le travail sur place à Béni que la presse a battu depuis l'indépendance de manière globale jusqu'à maintenant? Comment vous appréciez ce travail?
Bon, je ne dirais pas que le bilan est positif ou négatif, mais je peux dire que c'est quand même, nous sommes dans les énergies. Donc le bilan est à moitié positif et à moitié négatif. Parce que chez nous, il y a des radios bien sûr, mais les émissions qu'on donne souvent rares sont les émissions politiques. Nous avons seulement que la radio Papi et d'autres quelques radios qui nous donnaient des débats politiques. Mais actuellement, vraiment, c'est vraiment rare de citer les débats politiques et les parce qu'ils sont poursuivis. Donc on peut seulement parler des problèmes nationaux. Mais quand à ce qui concerne les problèmes locaux ici, sinon la mairie, le maire, les autorités vont vous interpeller. Et c'est ça le problème de la politique. Donc on parle seulement de la politique, il faut toucher seulement ce qui concerne le national, non pas ce qui est de l'État. Sinon on va vous interpeller. C'est ça le problème.
C'est-à-dire que les médias sur place à la radio, on débat plus les problèmes qui touchent les problèmes nationaux, mais ce qui touche à la situation, à la communauté.
Il y a aussi le problème, il y a des sujets, des bons sujets que la presse a dénoncés. Par exemple, il y avait les sujets de 500 sacs, qui n'est pas un conteneur de billets de 500 sacs qui ont été normalement dépassés à la frontière et qui ont été dans notre pays. La presse en est soulignée, mais nous n'avons pas même la réaction des autorités. C'est pour dire que le bilan est politique et aussi négatif de cause.
Et pour vous libérer, Steve, en bref, qu'est-ce que vous demandez que la presse puisse faire à Béni pour l'avenir?
Oui, la presse est vraiment la presse qui s'abène. Et aussi, le problème, c'est que comme la presse est faite, on n'a pas l'habitude d'acheter les journaux, on n'a pas la statue. Là, nous avons souvent c'est un peu cher aussi, c'est vrai, par rapport au coût de la vie, je ne sais pas dire, c'est 3 dollars, et souvent, nous, on n'a pas l'habitude de vivre, c'est ça le problème, c'est ça.
Voilà, vous souhaitez qu'il y ait une accès facile à l'information par rapport aux journaux. Merci, Steph. Nos prénoms, Maurice, qui est à Kanagawa Occidental. Maurice, bonjour.
Bonjour Pierre, une petite précision, je suis de la RFMC Katanga, mais je me retrouve présentement au Katanga dans une mission service.
Voilà, Maurice, vous êtes au Katanga dans en mission service de la RFMC Katanga. Nous nous parlons du travail de la presse. Sur place à Katanga où vous travaillez, comment trouvez-vous le travail que vous-même vous faites en tant que journaliste?
Je crois qu'il convient de jeter des fleurs aux journalistes congolais. Même si ce n'est pas à tous, mais du moins à un grand nombre, surtout pour les sacrifices qu'ils imposent, parce que nous sommes juste de notre milieu et nous sommes conscients des conditions dans lesquelles la plupart des journalistes congolais évoluent, étant donné que les médias congolais ne sont pas subventionnés. Le constat sur le terrain révèle pratiquement que, surtout les 10 dernières années, le space médiatique congolais a connu une révolution remarquable. Et ici, je voudrais mettre un accent particulier sur certains sujets que autrefois on osait à peine écartiner de peur de commettre un sacrilège et qui aujourd'hui sont évoqués et traités de manière professionnelle par certains collègues qui s'efforcent de s'imposer une discipline toute particulière. Mais je crois aussi qu'en dehors de ceci, les professionnels de médias que nous sommes, nous ne devons pas penser que nous sommes arrivés. Je le dis parce que cette révolution médiatique, ça comprend les parfums de certains dérapages qui interpellent la personnalité des journalistes lui-même. Ici, je voudrais relever deux faits que j'ai eu à observer, que ce soit au Kassai occidental, qui est ma province, que ce soit au Katanga ou ailleurs. C'est d'abord un certain manque de rigueur de la part de nombreux journalistes dans le traitement des faits. La plupart ne se font pas seulement violence pour diversifier leurs sources d'informations et faire entendre divers sons de cloche. Et ça, je crois que c'est un manque de professionnalisme assez grave. Je voudrais en second lieu souligner le fait que y a une sorte de culte de personnalité. Là également, c'est grave parce qu'il y a des journalistes qui se font passer pour soit des chantres ou des acolytes de certaines personnalités. Je crois que c'est pratiquement l'indépendance, la liberté et même la crédibilité du journaliste qui sont frappés de plein fouet. C'est un travail qu'il ne faudrait pas vraiment attendre que la communauté internationale vienne le faire à notre place comme on en a pris l'habitude depuis un temps.
Voilà,
que nous devons tous lutter pour que nous puissions acquérir une certaine indépendance.
Maurice, hier, quand on a célébré la journée nationale, le thème, c'est l'apport du journaliste dans le développement du Congo pour les 50 ans à venir. Vous êtes journaliste. Maintenant, on a fêté 50 ans, vous avez fait le bilan. Qu'est-ce que vous pensez que les journalistes, vous diriez faire pour aider le Congo à se développer pour l'avenir?
Je crois que pour ce qui nous concerne, nous, je crois que nous devons encore nous imposer un peu plus de rigueur, de façon à travailler dans notre professionnalisme, de façon à acquérir encore beaucoup plus, davantage, notre propre liberté d'expression, de manière que nous puissions travailler ou traiter de manière tout à fait indépendante les différentes informations qui nous parviennent. Je crois que c'est un grand défi pratiquement pour nous tous.
Merci Maurice, vous êtes journaliste, vous séjournez au Katanga, mais vous travaillez à la RTNC Katanga. Merci de nous avoir appelé à Bounia, en province orientale. Lutini, vous êtes en ligne, bonjour. Lutini, vous êtes en ligne? Apparemment, votre ligne de téléphone a des problèmes, le temps qu'on vous récupère, je crois.
Bonjour, je suis en ligne, je crois.
Ok, ça va bien, on vous suit maintenant. Nous parlons du travail de la presse. Chez vous, à Bounia, comment appréciez-vous ce travail abattu par les journalistes pendant tout ce temps?
Je dirais, je dirais que c'est mitigé. Dans les années 60 jusqu'aujourd'hui, on est à 2004. Si on peut essayer de bilancer tout ce qui s'est passé dans la presse, je pense bien qu'on doit voir aussi une sorte de. Il y a une sorte de d'évolution. Ça a évolué, quelque part, je dirais, ça a évolué. Mais il y a un problème, je dirais. Nous avons la marque de professionnalisme.
On n'a pas d'études des journalistes qui sont qualifiés pour faire ce genre de métier. Vous savez que ce genre de métier, ce n'est pas n'importe qui. Comme aujourd'hui, je dirais que c'est même à la base des théories de certains journalistes. Ils n'en savent rien du journalisme, alors on se permet de faire n'importe quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre élément que je voudrais lever, il y a le point de... nous avons chez nous la loi. La loi, ça, on peut même le mettre parmi les belles lois du monde. Nous pouvons être qualifiés parmi ces gens-là. Et même, nous savons bien parler, je sais bien que les Congolais savent beaucoup parler, ils savent très bien parler, ils ont l'éloquence. Mais pas de quoi ? Pas de vrai problème. D'abord, je dirais le premier problème, c'est quoi ? On a ce qu'on appelle la marque de volonté. Ça y est. Tout ce que nous faisons, nous avons cela dans notre constitution, dans notre très belle et notre très chère constitution. Nous en avons tout. Mais tout simplement, nous marquons l'application. Nous marquons l'application. Et puis, il y a d'autres choses, la corruption qui influence presque dans tous les domaines. Aujourd'hui, les journalistes, toujours comme ça, la corruption qui se laisse corrompre facilement et aussi ce qui même déstabilise, qui déshonore la presse
aujourd'hui.
Mmh, voilà. Et vous pouvez poser une question aussi à notre invité.
Oui, poser la question, oui.
Qu'est-ce que le peut attendre aujourd'hui des journalistes et leur formation, surtout leur formation.
L'information ou la formation?
La formation, je parle de la formation.
De la formation des journalistes. Okay. Merci beaucoup, Lotini. Voilà. Nous terminons, avant de remettre la parole à Madame Chantal, nous terminons avec Benjamin Kikisakim, à Kintessa. Benjamin, bonjour. Benjamin, vous êtes en ligne, bonjour. Benjamin, bon, apparemment, Benjamin est distrait. Madame Chantal, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs, hein, Sèvres, qui nous a appelé des bénis, Maurice, journaliste qui réside pour le moment au Katanga, Lotini de Bounia, qui vous a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre pour former les journalistes. Les uns et les autres ont posé le problème qui concerne la responsabilité des journalistes eux-mêmes. Et quel est votre point de vue par rapport à ce que ces premiers auditeurs ont dit sur le travail des journalistes?
Mais écoutez, je commencerai par la formation. C'est vrai qu'il y a un problème de formation qui se pose et c'est un problème qui est au plus haut niveau de la profession, dans la mesure où même au congrès de la refondation de la presse congolaise qui nous avait réuni en 2004 pour réfléchir sur les mots qui rongent la presse de manière à améliorer la qualité de notre travail, ce problème avait été posé et nous avons mis en place une commission de formation justement pour organiser des sessions de formation, de recyclage, pour de remise à niveau, justement pour essayer de compléter la formation acquise dans les institutions de formation des journalistes. C'est vrai qu'on a essayé, avec le peu de moyens que nous avons, d'organiser quelques sessions de formation, mais nous allons mettre davantage l'accent sur ce problème de manière à convaincre nos différents partenaires pour pouvoir organiser des sessions de formation aux journalistes. C'est un problème criant, effectivement, parce que sans formation, on ne peut pas faire jouer le professionnalisme. Parce que la formation permet de connaître les règles du métier de manière à pouvoir organiser le travail efficacement et de manière professionnelle. On a parlé de la diversification des sources d'information. C'est vrai, c'est un problème qui se pose. Vous savez, dans tous les pays, l'agence de presse est la source principale d'information aux journaux, aux différents organes de presse. Mais dans notre pays, notre agence rencontre d'énormes problèmes pour pouvoir assurer, fournir les informations aux journalistes, aux organes de presse. Diversifier les sources d'information, ça veut dire également pour un journaliste professionnel qui connaît les règles, qui maîtrise les règles et qui pratique les règles, quand vous tombez sur une information, il ne faut pas tout de suite la publier. La presse élémentaire exige que vous confrontez, que vous vérifiez d'abord cette information, ensuite vous la confrontez à d'autres sources de manière à faire des recoupements qui vous permettent d'établir qu'effectivement le fait existe, il est bien réel et que vous pouvez diffuser l'information, vous pouvez mettre cette information à la disposition du public qui a besoin d'une bonne information pour pouvoir participer à la gestion du pays. Mais malheureusement, cette règle élémentaire de la profession n'est pas toujours respectée dans notre pays, dans la pratique professionnelle. Souvent, il y a des journalistes et tombe sur une information parce que c'est une rumeur qui la met sur la place publique sans avoir vérifié. Et effectivement, ça porte un discrédit sur le travail que nous faisons. Je sais que nous, on a parlé de culte des personnes. Vous savez, effectivement, c'est un problème. Dans notre pays, sur un média qui existe, un appartient à une personnalité politique. Et comme les règles ne sont pas tout à fait bien déterminées, bien établies, qui protègent le travail des journalistes, ça fait que les journalistes qui travaillent dans un organe de presse qui appartient à telle personnalité politique ou telle autre, se sent obligé, est obligé de pratiquer ces cultes des personnalités. Ça compromet effectivement l'exercice de la liberté de la presse et l'indépendance des médias. Et ça ne permet pas d'assurer non plus, c'est pas parce qu'une personnalité politique a créé une entreprise de presse qu'on ne peut parler que de lui. Il faut parler, ouvrir l'espace, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail d'utilité publique, il faut ouvrir l'espace à d'autres expressions d'opinion. Après l'élection des débats sur des vrais débats, c'est vrai, c'est un problème qui existe. Dans notre pays, il est difficile d'organiser des débats sur les vrais problèmes qui se posent dans la vie quotidienne des citoyens. On veut faire des débats politiciens ou tout autour de l'octobre de l'âge et des mains, et pas sur les vrais problèmes qui se posent dans notre pays, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, les infrastructures, etc., etc., et qui permettront d'améliorer la qualité de la vie des citoyens. Ces débats-là, ils existent. Ceux qui animent les débats préfèrent des sujets politiciens, mais plutôt il n'y a pas de vrai débat national sur les problèmes réellement qui se posent dans les conditions de vie. C'est une rumeur professionnelle, effectivement. C'est ce que j'ai dit. Vous tombez sur une information, c'est une rumeur, mais vous la publiez sans avoir vérifié et faire les recoupements nécessaires. C'est un manque de professionnalisme. Tout ça, c'est la formation et c'est important, effectivement. Il faut que les entreprises de presse, les responsables d'entreprises de presse se préoccupent de la formation de leurs journalistes parce qu'ils voient de la crédibilité même du travail qu'ils font. Les radios, rapides, sans vous jeter des fleurs, sans vous flatter, la pratique professionnelle existe, ce qui fait que Radio Okapi a une crédibilité. Je sais que quand Radio Okapi dit quelque chose, les gens y croient parce que le travail professionnel a été fait de vérifier l'information, de recouper, et c'est en faveur de la crédibilité de Radio Okapi. Et ce qui fait que le taux d'audience de Radio Okapi peut augmenter parce que les auditeurs ont confiance en Radio Okapi. Donc, nous devons tous travailler à augmenter l'audience de nos organes de presse, aussi bien dans le milieu que dans la presse écrite, en étant professionnel, en vérifiant des informations.
Madame, avant de prendre, parce qu'il y a Benjamin qui est revenu maintenant, qui est en ligne, qui est ici à Kinshasa, et Roger qui est à Kananga, Maurice a évoqué le problème de la subvention, parce qu'en parlant bien sûr de l'indépendance du journaliste, il y a aussi le problème de moyens de survie pour le journaliste, la difficulté des subventions pour le média. Je pense que cela aussi joue en défaveur du travail de journaliste, hein, il n'y a pas assez de moyens pour lui permettre de bien
faire. Non, effectivement, c'est un problème. Bon, quand vous êtes un entrepreneur, vous décidez de vous lancer dans l'entreprise de presse, je crois que vous vous donnez les moyens qu'il faut. Les subventions de l'État viennent parce que le travail que nous faisons, c'est un travail d'utilité publique. Mm-hmm. Ça permet aux citoyens d'être informés et de participer à la gestion du pays. C'est pourquoi, dans la loi, on a parlé de la loi par votre auditeur de Béni, je crois. Mm-hmm. C'est pourquoi la loi dispose que l'État a l'obligation d'accorder des aides directes et indirectes aux entreprises de presse. Mais ça ne veut pas dire que tout doit venir de l'État. L'État ne peut pas financer des entreprises privées totalement. L'État doit pouvoir veiller à ce qu'ils ces entreprises de presse et donnent des moyens nécessaires pour pouvoir justement assumer leurs responsabilités et venir en appui par rapport à ces moyens-là. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à l'application des lois, parce que l'intervenant de Béni en a parlé. C'est vrai qu'il existe des lois qui réglementent l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays et qui ne sont pas respectées, pas seulement par l'État, mais également par nous-mêmes, professionnels, par nous-mêmes journalistes. Nous ne donnons pas la peine de lire la loi qui réglemente l'exercice de notre métier et ça pose effectivement un problème.
problème. Voilà, nous allons prendre Benjamin et Roger. Benjamin est à Kinshasa, Roger est à Kananga.
Chaque samedi à 8h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Okapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Nous parlons de la presse en RDC. Hier, elle a célébré la journée nationale. Le thème, l'apport du journaliste dans le développement de la RDC pour les 50 ans à venir. Nous en parlons avec vous, auditeurs des Radio Capi. Comment appréciez-vous le travail de la presse dans votre milieu? Que faut-il que la presse puisse faire pour aider les combats à se développer pour les 50 ans à venir? Vous avez l'occasion d'en parler en nous appelant au 081-899-1315 ou nous envoyer un mail à pa@radiookapi. Nous avons en direct au téléphone Madame Chantal Kanimbo, présidente de l'Union nationale de la presse du Congo. Benjamin, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. On vous écoute, Benjamin. Comment appréciez-vous le travail de la presse ici à Kinshasa où vous vivez?
Voilà, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Nous avons suivi avec intérêt les tableaux évolutifs faits par Madame Chantal, que je vais libérer en passant. Vous savez l'exposé sur le tableau, c'est bien beau, mais à notre niveau, nous trouvons que le travail n'évolue pas. Pourquoi? Parce que notre presse reste toujours prise en otage par certaines personnalités. Je pense qu'il y a un intervenant qui a souligné cela. Dans le travail fait par les journalistes, il y a d'abord les non-respects de principes déontologiques. Vous savez que la mission première, la presse s'est formée, informée et divertie. Cette mission-là n'est plus respectée. Il faut seulement... Bon, moi je constate qu'il y a eu évolution. Seulement sous le plan de on a créé beaucoup de maisons de presse, il y a beaucoup de journaux qui sont en train de naître comme des champignons. Sur cet aspect-là, bon, ça va, il y a eu évolution. Mais l'évolution dans le sens du respect de principe de la presse, il n'y en a pas. Puisqu'on voit ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes journaliste, vous êtes en train d'observer ce qui se passe sur le terrain. Il y a certaines maisons de presse qui sont prises en otage, qui sont en train de louer certaines personnalités. Même si ces personnalités ne sont pas, ne respectent pas le principe de la bonne vie, on les loue. Alors, vous savez ce qu'on peut dire, c'est la presse est en train d'évoluer, il n'y a pas d'évolution. Comme on a célébré hier la journée nationale de la presse, je pense que madame a un grand travail à faire. On doit, bon, à leur niveau, il faut qu'elles se dictent des lois et des principes que les journalistes doivent respecter. Alors, s'il n'y a pas respecté de ces principes et de ces lois, il faut faire aussi des sanctions. Il y a des journalistes qui se comportent, je ne veux pas dire mal, mais de la manière pas appréciable. Alors, comme il y a eu célébration de cette journée, que madame saisisse cette prochaine. La compétence qu'elle a, d'ailleurs, c'est une journaliste que nous respectons bien, elle connaît parfaitement son travail, nous apprécions sur sa lutte pour révolutionner la presse congolaise, et il faut qu'elle travaille pour que cette évolution soit positive.
Voilà. Benjamin, si on peut vous résumer, votre souci, c'est que quand le journaliste ne respecte pas les lois et les principes, qu'il y ait des fractions, comme ça peut aider à ce que les gens se corrigent, c'est ça?
Tout à fait. Hier, on a publié une liste et avec des journalistes reconnus, d'autres qui ne sont pas reconnus, ils ont déjà à se plaindre, voilà, nous autres, un ton de gens, pourquoi. C'est bien beau. Mais il y a une loi. Et cette loi soit respectée par tous. Au cas où la loi n'est pas respectée,
c'est une des sanctions. Voilà, merci Benjamin. À Kananga, Roger, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi Benjamin, il plaide pour les sanctions à l'endroit des journalistes qui ne marchent pas et qui ne respectent pas les principes de leur profession. On vous écoute, Benjamin, Roger.
Oui, mais d'abord, merci pour la parole. Bonjour à maman Chantal Kanimbo, c'est une femme que nous apprécions bien depuis la RTNC et jusque-là où elle est. Alors, moi je dirais que le bilan de la presse est vraiment mitigé. Parce que je pense que la presse a une mission dans ce pays. La presse ne remplit pas son rôle. Donc, c'est parce que la presse est au service.
de certains individus, notamment ceux qui sont en place. La presse n'apporte pas sa pierre. Je veux prendre l'exemple des scandales qui ont été révélés en Grande-Bretagne, des extramoureux de certains ministres, et ça se dit même en France aussi. C'est la presse qui a dénoncé. Je prends le cas de Monica Lewis avec le président Clinton. C'est la presse qui a dénoncé. Mais chez nous, que fait la presse? La presse noire, avec ce qui dirige, assiste au bannir la culture de la assiste que c'est dans la presse et la minute. Dans la presse et la minute, ils ne jouent plus pas vraiment ce rôle de
voilà, oui, papa. Au-delà du fait que la presse ne dénonce pas, sur place à Kananga, en ce qui concerne la gestion de la communauté et le développement, est-ce que la presse à Kananga, le radio, n'ont pas des émissions qui aident la population à évoluer dans un autre domaine, qui vous rendent compte que d'un côté ça ne marche pas?
Oui, je pense que vous m'amenez à un terrain de développement. Oui, d'accord. Comment pouvez-vous que vous puissiez parler du développement, d'autant plus que même vous les journalistes, vous pouvez être pays parmi les pays où les journalistes se sont tués, rappelez-vous même les ventes de radio partout à l'Est. Mais vous pensez que nous n'avons pas, vous êtes tranquille, mais la presse n'est plus non. Hein, on assiste à des pièces, par exemple, entre Maman Salon de René et Monsieur, je crois, de Pocitana, ils se sont discutés dans les photos, vous voyez ce que j'ai fait.
Voilà.
On ne pense pas que les choses doivent se passer dans ce pays.
Et qu'est-ce que vous voulez que la presse fasse Roger concrètement?
Pour attirer mes idées, je prends l'exemple de footballeur Rigoni qui vient d'être sanctionné de la presse qui a été annoncée. Par écrit, il a connu de la part avec un mineur. Oui, c'est un mineur. La presse montre la voie. C'est que nous, la presse, dispute. La presse constate, nous disons avec les journalistes, ils vont commettre le fait qu'ils sont en train de souffrir, ils ne nous apportent rien du tout, monsieur.
Voilà, on
dit que la presse puisse prononcer,
voilà,
correctement son travail pour les 50 ans à venir pour notre pays.
Voilà, on retient le mot dénonciation, hein, et que la presse puisse dénoncer, c'est ce que revient dans vos propos. Merci beaucoup, Roger. Vous êtes à Kanangaou. Vous nous suivez sur 83.5 MHz. On rentre ici à Kinshasa avec Georges. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi l'inquiétude de Roger de Kananga pour pour que les 50 ans à venir, il faut que la presse puisse faire le travail de dénonciation. Et vous, quel est votre souci par rapport au travail que la presse doit faire?
Oui, en fait, mon souci est que la presse puisse nous informer vraiment la vérité et rien que la vérité.
Mm-hmm.
Même si ça fait mal. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une presse qui est à la solde, je dirais, des hommes politiques, des acteurs politiques, à tel point qu'on informe même du mensonge. Vous savez, les journalistes, juste un exemple pour illustrer cela. Quand quelqu'un vous informe que non, on a assassiné le chef de l'État, il a reçu des coups de balle. Monsieur, alors qu'on voit le chef de l'État, par exemple, dans une réunion avec le ministre. Et demain, vous voyez encore le même journaliste revenir sur cela. Est-ce que c'est journaliste? Est-ce que demain un journaliste ou bien vraiment un chauffeur ou bien quelqu'un a créé des troubles?
Donc, vous pensez que
journaliste, je connais très bien Mme Kanyango qui est votre invitée. Mais ce qui est vrai, c'est que les journalistes, les systèmes, par exemple, de découpage, quand ils font un reportage, on doit leur donner quelque chose. Si on ne leur donne pas, et le reportage ne passera pas. Et quand quelqu'un vous donne de l'argent pour pouvoir passer son reportage, est-ce que allez-vous le critiquer? Non. C'est pour cela que je termine en disant, en posant une petite question à Mme Kanou. Les systèmes de découpage dans le journalisme, les pots de verre ou bien les petits montants qu'on donne après un reportage, est-ce que c'est un droit des journalistes ou bien c'est une corruption en avance de gens qui vont aller parler ce que vous avez vu dans le bon sens? J'ai terminé par là, monsieur le journaliste.
Merci, Georges. Vous êtes à Kinshasa sur 103.5 MHz. On rend à Lumbashi où se trouve Didier. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Cathy. Je voulais intervenir sur les 50 ans à venir.
Pour la presse.
La presse, je pense que la presse peut nous aider, nous, la population, aider aussi le gouvernement dans les 5 chantiers, par exemple. Vous imaginez que chaque personne, chaque famille possède au moins une télévision, un poste de radio. Donc, nous sommes toujours en écoute. Ce qui fait que la presse peut aider le gouvernement dans le sens d'éduquer la population dans le vrai sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous savez, le gouvernement est en train de mettre soit les essentiel de mettre des boudons, par exemple, aménager les routes, mettre, placer les ponts là où il n'y en a pas, mettre du courant électrique là où il n'y en a pas. Maintenant, nous, la population, c'est nous, la, nous qui abîmons ça chaque jour, là, une fois qu'on monte sur un poteau, on enlève un fil, les câbles, tout ça, nous volons ça. Si vous voyez bien, nous voulons ce que le gouvernement est en train de mettre. Maintenant, la presse peut nous aider à nous éduquer, à nous dire, puisque la plupart de la population, vraiment, la plupart sont, croyants. Si la presse peut nous revenir dans la Bible, nous recommander à observer soit la parole de Dieu, effectivement, qui interdit de voler, de détruire, d'abîmer ce qu'on a mis. Voyez que la presse peut aider le gouvernement à avancer dans les 50 à venir. Quand nous revenons bien derrière,
merci.
Les blancs, oui, je reviens, je n'ai pas terminé. Les blancs, eux, le moment de la colonisation, nous travaillons, il s'agit de. Donc nous respectons la loi, les recommandations que l'homme blanc nous imposait, soi-disant imposition. Maintenant, quand l'homme blanc est parti, nous sommes restés seuls, c'est-à-dire nous sommes indépendants, nous sommes capables de nous gérer nous-mêmes. Maintenant, nous sommes restés indépendants, bien sûr, mais nous continuons à abîmer ce que même le blanc a
voilà.
Fait.
Merci, Didier. Didier, pour vous permettre, Didier, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres auditeurs qui sont en ligne sur la question de la presse, et le plus souvent, moi, beaucoup de gens qui voudraient intervenir, mais du moins, en bref, votre souci, c'est que la presse qui fait le travail d'éduquer la population au respect des biens communs, au civisme. On vous a suivi, merci, vous êtes à Lubumbashi, on entre ici comme ça. Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons déjà, comme c'est la dernière partie de l'émission, de ce que vous pensez que la presse puisse faire en dépit de tout ce qui a été fait depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'elle doit encore faire de plus pour aider le Congo à se développer?
D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste, merci beaucoup à tous les auditeurs de la radio Fati.
Mm-hmm.
La situation de la presse, surtout que vous avez eu la bonne idée d'inviter madame Chantal, elle qui coordonne l'UPC, nous pensons que pour que les choses marchent dans ce pays par rapport à la presse, il faut que cette plateforme joue absolument son rôle. Elle ne se limite à des crises. En tout cas, elle a fait une description fantastique de la situation de la presse dans notre pays. Ce qui est vrai, ce qu'elle venait de dire est totalement correct. Mais est-ce qu'elle va-t-elle se limiter à constater où elle a un rôle à jouer? Dans le cas contraire, à quoi aura servi l'UPC? C'est que nous, donc, c'est comme ce que venait de dire, je crois, Benjamin et d'autres auditeurs avant moi, nous voulons que l'UPC cesse d'être seulement une plateforme, mais que ça devienne un lieu où les journalistes, qui ne marchent pas selon les règles de la profession, peuvent se soutenir. S'il y a l'impunité, si celui qui couvre une presse n'est pas capable de l'entretenir, vous voulez garder ce journaliste en divagation. Lui qui a ouvert sa maison de la presse, il n'est pas capable d'encadrer les gens qui l'ont pris, qui le prennent. L'État, bien sûr, il peut donner la subvention, mais cette subvention vient aider, il vient pallier à ce que l'on doit avoir d'abord. Qu'elle enferme toutes les maisons de presse qui ne sont pas capables d'encadrer les journalistes. Le journaliste, c'est un monsieur, c'est un métier noble. Il doit être capable de se prendre en charge plutôt qu'il devienne un commandeur. À partir du moment où le journaliste doit vivre en demandant, c'est normal qu'il la main qu'il donne soit au-dessus de celui qui reçoit, il est fait que la publicité de celui qui
voilà, merci. Voilà, merci Richard. Richard, la qualité de votre ligne a tendance à faire des altères. Merci beaucoup quand même de votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Madame Chantal, vous venez de suivre encore le deuxième groupe d'auditeurs. Benjamin de Kinshasa a beaucoup insisté sur la sanction qu'il faudrait pour ceux qui ne marchent pas dans le principe. Roger de Kalanga, lui, il insiste sur le fait que les journalistes doivent faire le travail de dénoncer plutôt que constater comme tout le monde. Georges de Kinshasa, lui, il pose la question de savoir à quand la pratique, à quand la fin de la pratique coupage. Est-ce que c'est un droit que le journaliste reçoit ou c'est l'autorisation pour aller raconter ce que l'interrogation directeur lui a dit, Didier de Lubumbashi, c'est pour un problème de l'éducation de la population et enfin, Richard demande à l'UNPC d'être vraiment plus pragmatique, de punir ceux-là qui ne marchent pas dans le principe et aussi fermer les organes qui ne sont pas en mesure de prendre en charge le journaliste pour ne pas le laisser en dévaluation.
Oui, effectivement. Je pense que je dirais à Richard que l'UNPC ne consente pas seulement l'Union nationale de la presse du Congo, qui est l'organisation professionnelle, qui édite les règles professionnelles. Nous avons adopté au Congrès de la Réfondation en 2004 le code de déontologie et d'éthique professionnelle de manière à formaliser les règles professionnelles. Ce code, avec l'Observatoire de médias congolais qui avait été mis en place à l'issue du Congrès, a été largement diffusé de manière à permettre aux journalistes de connaître les règles déontologiques et d'éthique professionnelle. Mmh. Et le même que fait le travail d'observer le respect de ces règles, quand ces règles sont violées, nous transmet des dossiers au niveau de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Si les fautes sont constatées avec les observations de l'OMEC, l'Union nationale de la presse du Congo, à travers la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, prend des sanctions et rend ces sanctions publiques. Parce que nous le savons, nous-mêmes dans la profession, que le tribunal, par sanctions infligées par les pairs, fait beaucoup plus mal qu'un journaliste qui est mis en prison, qui quand il en sort, il se prend pour un héros et il continue à faire ce qu'il veut. Effectivement, dans tout corps social, dans toute profession, il y a la discipline qui va faire respecter et nous sommes là effectivement pour ça. Vous avez évoqué les lois. C'est vrai qu'il existe des lois dans notre pays pour réglementer l'exercice de la liberté de la presse. Il y a une loi qui demande aux journalistes, avant de pratiquer, de pouvoir se faire identifier, d'avoir une carte de presse pour exercer le métier. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de turbulences dans le pays qui ont fait que, bon, il y a beaucoup de choses, on a perdu des repères, et donc ils font qu'on pense qu'on peut arriver à se réveiller le matin, et décider qu'on est journaliste sans connaître les règles. Ça ne peut pas être comme ça. La loi dit, pour exercer le métier, d'abord un organe de presse doit pouvoir organiser un concours pour recruter les journalistes. Et les journalistes issus des institutions de formation des journalistes ont une certaine faveur. Et les journalistes, les candidats qui viennent d'autres structures universitaires, parce qu'on a beaucoup insisté dans la loi sur la formation universitaire, parce qu'on estime qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir apprécier et exercer ce métier, doivent participer à un concours, et ceux qui n'ont pas suivi la formation doivent apprendre le métier, suivre une période de stage, et ceux qui ont suivi la formation doivent aussi avoir une période de stage qui est estimée à 2 ans, mais dans notre pays, avec la floraison d'organes qui s'en est, on a décidé une solution légale qui font que, bon, on peut prendre un étudiant de première année de graduant, on le nomme directeur des informations ou directeur de programme, alors que la loi dispose qu'il faut avoir une expérience avérée pour pouvoir justement diriger les... Un étudiant de première année qui est en train d'apprendre l'alphabet du métier, qui ne le maîtrise pas encore, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne maîtrise pas les règles du métier et donc c'est normal que nous observions tous les dérapages que nous dénonçons, mais nous sommes effectivement pour sanctionner positivement et négativement de manière à assurer la discipline dans la profession. Il est arrivé un moment où on a sanctionné, bon, il y en a qui ont voulu faire le malin en disant que nous ne faisons pas partie des BNPC, croyant échapper à la sanction, mais ça ne se passe pas comme ça dans un pays organisé, on est dans une république. Il y a les lois et il faut respecter les lois. Si nous nous disons, nous parlons de l'instauration d'un état de droit, nous devons nous-mêmes commencer par respecter les lois et le principe de notre métier, ça ne pourra que nous assurer une crédibilité par rapport à l'attente, par rapport aux attentes du public qui ont effectivement besoin d'être informés, comme l'a dit Georges. Le problème de coupage.
Voilà, c'est la question pour répondre à part que nous tendons vers la fin, pour aider les auditeurs. La question de coupage.
Oui, le problème de coupage, effectivement, c'est lié à tout
tous les problèmes qui existent par rapport à la viabilité économique des entreprises de presse. Je suis heureuse d'entendre un de vos auditeurs hier parler de l'appui de l'État. L'État vient en appui, mais ne prend pas en charge totalement. Ça, c'est vrai. Les entreprises qui financent doivent se donner les moyens pour pouvoir assurer le fonctionnement de leurs entreprises. Le coupage, s'il existe, c'est parce qu'il y a des journalistes qui sont les journalistes qui sont employés, mais ils n'ont pas de contrat de travail, ne sont pas rémunérés, et donc ils sont obligés de se faire payer. Ailleurs, l'information s'achète. On achète un journal pour être informé, on paye la radio, on paye la télévision avec les redevances pour pouvoir être informé, mais c'est nous, c'est le contraire. C'est la prise d'information qui doit payer pour que l'information soit publiée. Effectivement, ça compromet l'indépendance de l'État. C'est vrai que nous atteignons dans nos entreprises de presse à multiplier nos sources de financement. Cela pourra contribuer à assurer l'indépendance et à éviter les manipulations qu'on a dénoncées et cultes de personnalité qu'on a dénoncées dans les médias congolais.
Voilà, permettez que nous puissions lire trois mails des auditeurs. Nous prenons les deux derniers auditeurs parce que là on tend vers la fin, mais on compte que 5 minutes qui nous séparent de la fin de l'émission. Il y a d'abord Olive, qui est journaliste ici à Kinshasa, qui dit ceci, c'est une question directe à vous. Devons-nous attendre encore combien de temps pour retirer nos cartes de presse pour ceux qui avaient déjà rempli leur formulaire? C'est une question que vous allez répondre après les autres interventions. Il y a Aimé Moutanda de Mbujimaï qui dit ceci, quelles sont les sanctions? Bon, vous venez de répondre d'ailleurs à la question. Il voudrait qu'on puisse améliorer les conditions de vie des journalistes pour qu'ils puissent bien travailler. Dodine Tamboa, qui n'a pas indiqué le lien, dit ceci, il donnait une note positive. Il dit que pendant 50 ans, la presse s'est beaucoup féminisée de plus en plus. C'est ça le domaine pour lui. Il dit que c'est ça le modèle même de la parité. On voit de plus en plus beaucoup de femmes journalistes. Et Hubert de Bukavu lui dit ceci, la presse doit être indépendante, mais elle doit éviter de créer la confusion dans la population par la stigmatisation, la discrimination, la politisation des informations, surtout pas l'extrémisme. On vous donne la parole à Messi de Goma et Menga de Guémena parce qu'on termine par vous, deux, une minute et demie à chacun. À Messi, vous êtes à Goma, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'opportunité que vous venez de m'accorder. Concernant la force de la presse et à Goma, je dis, c'est quand même l'affaire à la presse. Goma, parce que pourquoi? Ça fait un temps, la presse est en train de combattre quoi, les grévistes, je dis. Et c'est à travers la presse que la ville de Goma aujourd'hui peut compter aussi ces jeunes, car la presse a joué un rôle là très remarquable. Et concernant aussi les informations, je peux dire que il y a quelque chose qui tourne un peu très mal à la presse de Goma. Pourquoi? Parce que s'il y a une information qui est à la une, c'est la seule information qui reste au moins durant deux semaines. Là, c'est anormal quand même. Hein.
Voilà. Oui, Amis, c'est terminé par là parce que c'est vraiment 30 secondes terminé hein, par rapport aux propositions.
Oui, pour ne pas trop dire, alors je termine par là.
Merci beaucoup. Vous le plaignez, en fait, c'est bon à Goma, mais du moins, une seule information à la une qui reste qui traîne longtemps sur le média. Menga, vous êtes à Guémena, on termine par vous. Qu'est-ce que vous proposez, Menga, pour que la presse puisse faire le travail d'aider les Congolais à se développer pour l'avenir?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je salue aussi Madame Chantal qui est aussi l'invité du jour. Vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui nous avons un problème dans notre pays. Parce que la plupart des médias de nos chaînes et de notre pays, il n'y a que rien que les politiciens. Mais non, les journalistes qui travaillent en presse ont vraiment la tendance de soutenir ces politiciens, de ces politiciens-là. Et la raison pour laquelle il y a monsieur Roger de Kinshasa qui a soulevé. Mais non. Plus que moi je le propose, il faudrait que non, les journalistes, il faudrait que les pressions puissent mettre des mécanismes de force à sonner tous les journalistes qui vont être à côté de la déontologie professionnelle. Parce qu'il y a l'année passée ici, nous avons vu qu'il y a eu une chaîne locale ici, qu'on avait limogé un journaliste parce qu'il avait parlé sur
le gouvernement en place, or qu'il était une chaîne de l'opposition. Donc ce n'était pas une bonne chose.
Voilà, merci beaucoup.
Et tous les journalistes
merci beaucoup Menga. On ne saura pas aller loin avec vous parce que c'est deux minutes qui nous séparent de la fin de l'émission. Vous demandez à l'UNPC de sanctionner. Et puis nous remercions Léonard qui est ici à Kinshasa et Kassamba qui est à Bouya. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être mis sur les antennes. Madame Chantal, deux minutes pour terminer l'émission. Mais il y a une question, c'est une question qui a été posée par beaucoup de journalistes qui nous ont appelés pour savoir à quand leur carte, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont payé l'argent depuis le mois de janvier. C'est une question de la profession et puis aussi les quelques préoccupations des auditeurs pour conclure l'émission.
Bon, je crois que personne n'a payé l'argent. Hein. On a payé peut-être pour acheter le formulaire, mais pour la carte de presse, c'est maintenant qu'il faut venir payer, il faut mettre en règle des cotisations pour pouvoir avoir la carte. On a eu des problèmes de financement, justement, les journalistes doivent comprendre que s'il faut imprimer les cartes suffisamment à temps, ils doivent payer régulièrement leurs cotisations pour nous donner les moyens d'imprimer les cartes. Nous, on ne les imprime pas gratuitement, ils doivent payer l'imprimeur qui fait le travail. Ils doivent comprendre qu'il faut qu'ils payent leur cotisation, ça nous donne les moyens de pouvoir imprimer la carte de presse. La carte de presse, on l'aura bientôt, grâce au financement du PNUD qui nous a permis justement d'imprimer la guerre. Nous allons, dans les deux semaines à venir, mettre à la disposition également des journalistes qui se sont fait identifier leur carte de presse. Se faire identifier est une obligation d'une des lois qui réglemente l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Voilà. Dans
à propos de tout ce qu'on a dit, parce qu'on termine l'émission, juste en 20 secondes, hein, votre mot pour clôturer l'émission.
Bon, je pense que tout ce que les auditeurs ont dit, c'est important. Moi, je retiens quelque chose de fondamental, c'est l'émission de médias, c'est informer, éduquer et former. Mmh. Et nous devons faire en sorte d'assurer le professionnalisme dans l'émission pour pouvoir remplir ces trois missions qui nous concernent. C'est ainsi que nous allons efficacement contribuer au développement de notre pays parce que l'information est devenue un paramètre important dans tout programme de développement. Et si nous ne donnons pas la bonne information aux citoyens, il sera difficile de contribuer au développement de notre pays.
Merci beaucoup, Madame Chantal Kanimbo. Merci aux auditeurs. On se retrouve le lundi. Nous allons parler du fonctionnement des hôpitaux généraux de référence dans notre pays. Il y en a qui sont en difficulté, comme à Mouchengue, au Kassai Occidental, et à le Sambo, au Kassai Oriental. Quel état des lieux faites-vous du fonctionnement des hôpitaux généraux dans votre milieu et que faudrait-il faire pour améliorer leur travail? On en parle avec vous le lundi. Merci à toute l'équipe. Au revoir et bon week-end à tous.